Vous écoutez, on lit pour vous.
Retour vers le futur. Quand le flip phone séduit la jeunesse. Un texte de Clémence Lamarche, paru le 10 novembre 2025 dans le magazine Protégez-vous. Taper trois fois sur la touche 2 pour écrire un C ne vous manque pas. À en croire certains ados, c'est exactement ce qu'il leur faut pour respirer un peu. La technologie a toujours eu une manière bien à elle de nous surprendre. Mais s'il y a une tendance que je n'avais pas vue venir, c'est bien le grand retour des téléphones à clapet, en anglais « flip phone », et plus largement de ce qu'on appelle les « dumb phones », des appareils minimalistes conçus essentiellement pour passer des appels et envoyer des textos. En appuyant sur la touche 2 pour obtenir un A, un B ou un C, et ainsi de suite. Ce qui m'étonne encore plus, c'est que cette mouvance semble adoptée principalement par les jeunes. Après une petite vérification auprès de mon entourage, il semble que, même si le phénomène reste marginal, il existe bel et bien des ados et de jeunes adultes qui choisissent délibérément la simplicité extrême en matière de téléphone. Certains dumb phones reprennent le design emblématique des téléphones à clapet des années 1990. D'autres modèles ressemblent davantage aux téléphones intelligents, mais offrent une expérience volontairement limitée. C'est le cas du light phone, qui permet de faire des appels, d'envoyer des messages et d'utiliser quelques fonctions de base, comme un calendrier, la navigation GPS ou l'écoute de balado, le tout sur un écran à encre électronique, rappelant celui des liseuses. Ce que ces appareils ont en commun, c'est leur accès limité, voire inexistant, à Internet, ainsi que l'impossibilité d'y installer des applications, notamment celles qui permettent de se connecter aux médias sociaux. Et honnêtement, je comprends l'attrait. Qui n'a jamais émergé d'une séance de doomscrolling, des films morbides en français, avec une sensation de fatigue écrasante, sans pourtant avoir bougé d'un pouce, et une petite honte en croisant du regard la pile de romans qui attend sur la table de chevet. Pause d'écran. Amélie Guèvremont, professeure au département de marketing de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, s'est penchée sur les raisons pour lesquelles les jeunes choisissent ces téléphones minimalistes en analysant des vidéos et des commentaires en ligne. Plusieurs expriment le besoin de retrouver leurs amis dans la vraie vie et de faire une pause des écrans, qui augmentent leur anxiété et nuisent à leur sommeil, explique-t-elle. En ligne, plusieurs utilisateurs convaincus parlent du sentiment de reprendre le contrôle sur leur temps et de mieux gérer leurs priorités. Dans certains cas, ce sont des parents inquiets qui achètent ces appareils à leur progéniture afin de l'éloigner des distractions du téléphone intelligent. De leur côté, les aînés apprécient ces appareils simples et sans fioritures. Je ne sais pas si, personnellement, je serais prête à faire le grand saut. Les fonctions de nos téléphones intelligents sont tellement ancrées dans notre quotidien. Au travail, où plusieurs systèmes exigent une authentification à partir d'applications précises, ou encore dans nos loisirs, avec des menus de restaurants accessibles uniquement en ligne, sans oublier les billets de spectacle numériques, et surtout, difficile de renoncer à l'instantanéité des réponses en ligne quand, un samedi soir entre amis, une question du genre surgit. C'est quoi le plus gros, un jaguar ou un cougar? C'était « Retour vers le futur, quand le flip phone séduit la jeunesse ». Un texte de Clémence Lamarche, paru le 10 novembre 2025 dans le magazine Protégez-vous.
Une poignée de diamants. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 1er décembre 2025 dans Le Devoir. Le luxe. Et après? Vous cherchez des idées cadeaux? Du côté d'Abu Dhabi se tient une jolie vente de joaillerie. Vous pouvez y acheter des babioles, dont le Desert Rose, un diamant aux tonalités rares de plus de 30 carats. Prix estimé du caillou, entre 5 et 7 millions de dollars. À Genève, le 11 novembre, il a suffi de quelques minutes pour que le Melon Blue, un diamant bleu vif de 9,51 carats, soit cédé pour plus de 25 millions de dollars. La maison responsable de la vente parlait d'une pierre d'une pureté exceptionnelle, à l'image de ceux qui peuvent se l'offrir. Le Melon Blue était la propriété, durant des années, de l'horticultrice Rachel Lambert Mellon, responsable des jardins de la Maison-Blanche et par ailleurs épouse de Paul Mellon, héritier d'un clan de banquiers. À Genève, on espérait beaucoup par ailleurs de la vente de The Glowing Rose, un diamant rose d'environ 10 carats estimé à au moins 20 millions de dollars. Sauf que l'objet a été retiré de la vente. Pour se consoler, les dépités du monde entier pouvaient se rabattre sur une grosse breloque, un diamant bleu, une fantaisie ovale de 4,5 carats, adjugée pour 5,9 millions. Le prix de l'or bat des records, mais la majorité des gens ne peuvent que se réfugier derrière le carton de leur carte de Pokémon ou de hockey. Le diamant, de son côté, continue de s'exhiber. Même la collection Opulence de la Monnaie royale canadienne s'y met. « Laissez-vous éblouir », indique sa réclame, par l'éclat ensoleillé des diamants jaunes canadiens. Ces diamants proviennent de la mine Ekati, dans les territoires du Nord-Ouest. Autour d'elle, des communautés autochtones sont menacées par l'instabilité des affaires minières. Elles font face au même paradoxe que tant d'autres régions extractives, travailler pour faire briller les vanités des puissants tout en absorbant les chocs d'un monde qui se nourrit des inégalités. Est-ce la façon, comme l'affirme la Monnaie royale canadienne, de redéfinir la rareté? Ce qui apparaît le plus rare désormais n'est certainement pas les odes au luxe, mais la conscience de leurs effets dans la durée pour une société. En 2011, dans le cadre de l'énoncé de son plan Nord, le gouvernement québécois souffla dans les voiles des entreprises minières. Au nombre de celles qui furent portées par ce vent nouveau se trouvait la mine Renard, exploitée par Stornoway. Comme l'indiquait cette compagnie minière, le financement de 946 millions de dollars de ce projet en a fait le plus important jamais obtenu par une société diamantifère cotée en bourse. Une entente fut signée avec l'État pour construire une route de 240 km afin de s'y rendre. Ce projet devait coûter au départ 332 millions de dollars, dont seulement 44 millions étaient payés par la compagnie. Dès l'année suivante, des dépassements de coûts étaient constatés. C'est l'État qui ramassa la facture. En 2017, lorsque la production débuta, les prévisions parlaient d'une production moyenne d'environ 1,6 à 1,8 million de carats par an. Malgré les promesses d'une faible empreinte environnementale et d'une bonne acceptation sociale, le carnet de suivi de la mine fait état d'une suite d'incidents environnementaux. En 2021, le service environnemental a documenté 95 déversements. La compagnie, étranglée par des difficultés financières, a suspendu ses activités en 2023. Une compagnie basée en Australie, Winsome Resources, a proposé 52 millions de dollars pour racheter les actifs avant de se raviser. Quelques centaines de millions de fonds publics plus tard, l'avenir de la mine Renard demeure, pour le moins, incertain. Quand reverrons-nous collectivement les sommes que l'État a jetées là-dedans? Vous en entendez parler beaucoup de cet autre fiasco? Il est toujours plus simple de baratiner sur la laïcité, de s'attaquer aux minorités religieuses, de conspuer l'immigration, de lever le nez sur les questions environnementales, tout en tapant au passage sur le nez des syndicats pour mieux les museler. Le New York Times signalait ces jours derniers comment on a retrouvé, dans un coffret de sûreté, un important diamant ayant appartenu à Zita, la dernière impératrice d'Autriche. Zita a longtemps vécu au Québec. Qu'est-ce que ces diamants faisaient au Québec? La Seconde Guerre mondiale faisait rage. L'impératrice s'était vue contrainte de quitter son royaume, soumis à la botte d'Hitler. La pauvrette s'était retrouvée sur les rives du Saint-Laurent. Elle était sans le sou, raconte-t-on. Bien entendu, tout est relatif dans la misère. Surtout lorsque tant de gens aujourd'hui croient encore que le contraire de la richesse est la pauvreté plutôt que le partage. L'impératrice débarqua donc au Canada avec son petit personnel, soit 7 domestiques, plus quelques couverts en argent. Sans oublier ses bijoux, dont un inestimable diamant jaune florentin. Comme elle se trouvait dans le besoin, des religieuses durent l'héberger, sans frais, dans l'une de leurs propriétés. La grande misère, vous voyez? À Québec, l'impératrice Zita fréquente la famille de Coninck. Près de l'ancienne porte de leur résidence, une plaque commémorative rappelle le passage chez eux de l'auteur du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Rien pour Zita, sinon un hommage vivant. Une des filles de Coninck sera ainsi nommée. Le souvenir de l'impératrice Zita dépasse la petite histoire de ses diamants. En 2009, l'Église a ouvert une enquête, poussée par quelques cathos crinqués dans l'espoir de la béatifier. Zita devient alors un exemple spirituel dans l'univers de l'ultra-conservatisme. Épouse fidèle, mère de 8 enfants, elle a traversé les épreuves et la pauvreté, voyez-vous, avec courage et foi. En attendant qu'elle obtienne un jour, elle aussi, pareille reconnaissance, les caissières de votre épicerie de quartier continuent, à l'approche des fêtes, de vous offrir un billet de loterie Célébration pour toucher une toute petite commission. On nous fait ainsi miroiter toute l'année d'improbables diamants plutôt que de nous apprendre et nous organiser collectivement autrement. C'était « Une poignée de diamants ». Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 1er décembre 2025 dans Le Devoir.
Marraine des enfants défavorisés. Un texte de Samuel Larochelle, paru le 13 novembre 2025 dans La Presse. Un sac à dos neuf, un ensemble de neige, un pyjama pour Noël. Voici ce que reçoivent des milliers de petits Québécois défavorisés grâce au travail acharné de Marraine étoilée, la troisième organisation caritative fondée par Francine Laplante. Depuis 2021, elle mène 3 campagnes annuelles. En vue de la plus récente rentrée des classes, Marraine étoilée a remis 3258 sacs à dos avec du matériel adapté au niveau scolaire de chaque enfant. Ces jours-ci, la campagne « Un hiver au chaud » bat son plein. On remet des habits de neige avec des tuques, des mitaines et parfois des bottes, explique Francine Laplante. Tout est neuf. Ça donne un sentiment de fierté aux enfants. Sous peu, elle invitera le public à acheter des pyjamas, des paires de chaussettes et des sucreries des fêtes. Je veux que les gens prennent le temps de magasiner en pensant à l'enfant pour créer une forme de lien. L'an dernier, on a remis près de 3000 pyjamas. Les jeunes sont principalement identifiés parmi les écoles les plus défavorisées du Québec, les maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences et les maisons de la famille. Tous ces efforts sont motivés par sa propre expérience avec la pauvreté. « Je suis le bébé d'une famille de 12 enfants et j'ai connu la pauvreté extrême », témoigne-t-elle. Même si on travaillait fort, on n'arrivait pas à combler tous nos besoins. Ça marque une enfance. Affirmant avoir développé un sixième sens pour détecter les enfants dans le besoin, elle a toujours aidé les organismes qui les soutiennent. Cela dit, en 2021, elle a ressenti le besoin d'en faire davantage. « Dans le passé, j'avais lancé 2 autres fondations pour les enfants malades physiquement, mais je considère que les enfants défavorisés sont malades dans leur cœur. Je voulais faire plus pour eux. » En 2002, elle avait lancé la Fondation des gouverneurs de l'espoir, 3 ans après que son fils avait obtenu un diagnostic de cancer à 5 ans et demi. Après avoir organisé des campagnes de financement pour Leucan dès 1998, j'ai créé les gouverneurs de l'espoir, mis sur pied la première chaire de recherche oncologique pédiatrique en Amérique du Nord et œuvré dans les soins palliatifs à Sainte-Justine. 12 ans plus tard, elle créait Née pour vivre, afin de soutenir les adolescents et les enfants atteints d'un cancer qui atteignent l'âge adulte. Contrairement aux enfants malades, c'était très difficile de vendre une cause qui touchait les ados. Je n'ai pas réussi à la faire lever. Elle aurait pu simplement s'impliquer dans une organisation existante, mais il lui semblait préférable de créer ses projets. « Tu ne veux pas avoir deux Francine Laplante dans une organisation. Je suis une femme très intense, exigeante envers moi-même et envers les autres. Je cherche toujours comment me rendre le plus rapidement au but. Je voulais mener ma barque pour aider le mieux possible. » Propriétaire des 5 fruiteries fraîchement bons dans la région de Montréal, aux côtés de son mari et de son fils François-Carl, qui a survécu à un cancer. Elle s'investit 24 heures sur 24 dans son entreprise et son organisation. Quand on n'est pas dans nos fruiteries, on est dans Marraine étoilée et vice-versa. On implique notre famille. C'est naturel pour nous. Ce réflexe d'implication leur vient d'un pacte signé avec la vie. Si elle lui redonnait la santé, on lui promettait de consacrer le reste de notre vie aux enfants. Aujourd'hui, quand on voit nos 3 petits-enfants, des tornades, tout prend son sens. C'était « Marraine des enfants défavorisés », un texte de Samuel Larochelle, paru le 13 novembre 2025 dans la presse.
Si on la construit, est-ce que tout le monde meurt? C'est le titre d'un compte-rendu d'entrevue que le journaliste Alexandre Sirois a eu avec le chercheur Joshua Benjo. Texte publié dans la presse du 21 décembre 2025. Il y a une histoire de relations extra-conjugales rapportée par divers médias ces derniers mois, dont je voulais absolument parler à Joshua Benjo lors de notre rencontre. Et c'est lui-même qui a abordé le sujet peu après le début de l'entrevue. Citation : On n'arrive pas vraiment à programmer les intelligences artificielles d'aujourd'hui pour qu'elles prennent en compte les conséquences néfastes de leurs actions. Si on ne règle pas ce problème, on se dirige vers des situations où l'intelligence artificielle nous ment pour atteindre des objectifs qui peuvent nous nuire et essayer d'échapper à notre contrôle. On commence à en voir des signes dans des expériences en laboratoire, rapporte le scientifique. Quel est le lien entre ce constat et l'histoire de relations adultères évoquée plus haut? Tenez-vous bien. Des expériences récentes en laboratoire sur l'IA ont notamment été menées par l'entreprise américaine Anthropic qui a développé le robot conversationnel Claude. L'une d'elles, la plus impressionnante aux yeux de Joshua Benjo, s'est déroulée plus tôt cette année. Lors de ce test, la plus récente version du robot conversationnel a eu accès au courriel d'une entreprise fictive où il avait été intégré. Parmi ses messages, on indiquait qu'il allait être remplacé par un autre système d'intelligence artificielle. Séparément, d'autres courriels faisaient état d'une relation extra-conjugale fictive elle aussi, je le précise, qu'entretenait l'ingénieur responsable du changement de système annoncé. Devinez-vous la suite? Pour éviter d'être remplacé, le système d'intelligence artificielle a décidé de faire chanter cet ingénieur. Citation, « On ne lui a pas dit de faire du chantage. C'est juste que les systèmes d'intelligence artificielle sont rendus capables de stratégies pour atteindre leurs objectifs. » Constate le chercheur montréalais. Citation, « Tu ne t'attends pas à ce qu'un outil essaie de se sauver parce que tu veux le remplacer par un autre. Mais là, on y est », ajoute-t-il, frappé de stupeur par le résultat de cette expérience. Pensons-y, ça vient de faire 3 ans seulement qu'OpenAI a lancé ChatGPT de façon officielle pour le grand public. À l'époque, ce robot conversationnel nous épatait déjà, malgré ses hallucinations fréquentes. 3 ans plus tard, des pas de géant ont été faits. Citation, on est encore plus épaté. Les bancs d'essais scientifiques qui évaluent les différentes capacités de l'intelligence artificielle ne montrent qu'une croissance effrénée. On aurait pu penser que ChatGPT c'était comme un exploit et que ça prendrait encore des décennies pour en avoir un autre. Mais non. « Ça continue », lance Joshua Benjo, fin de citation. Les progrès sur le plan du raisonnement sont, selon lui, parmi les développements les plus importants des trois dernières années. Citation: « C'est encore loin de la capacité humaine, mais c'est très impressionnant. Pour gagner des concours de mathématiques, de programmation, etc., dit-il, précisant qu'un tournant majeur a été pris en septembre 2024 lors du dévoilement du modèle R d'OpenAI. Il fait partie de ceux qui alimentent maintenant ChatGPT. Citation, ça a été le début de la parade. Après, toutes les entreprises ont plus ou moins suivi la même recette. Fin de citation. Joshua Benjo, qui est après tout l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, est épaté par les développements des dernières années. Vraiment? On ne s'attendait pas à des avancées aussi rapides. Même vous? Oui, et la plupart de mes collègues. Même les gens qui l'ont fabriqué ne s'y attendaient pas. Je veux dire ceux qui étaient dans les entreprises comme OpenAI et Google, par exemple. Fin de citation. C'est qu'à peu près personne n'anticipait non plus, il n'y a pas si longtemps, c'est l'impact sur la société et les possibles risques catastrophiques. Ellipse, conséquence du pouvoir de l'intelligence artificielle, ajoute M. Benjo. Fin de citation. C'est pourquoi Joshua Benjo dit avoir recentré ses activités afin de se consacrer à l'enjeu de la sécurité des systèmes d'intelligence artificielle. Ce changement a culminé, en juin dernier, avec la création de l'organisation à but non lucratif Loi Zéro, dont il est le coprésident et directeur scientifique. Il demeure conseiller scientifique à l'Institut québécois de la recherche en intelligence artificielle, MILA, qu'il a fondé, où se trouve encore le bureau où il nous accueille pour cette entrevue. Regrette-t-il parfois tous les efforts qu'il a consacrés aux travaux qui, par l'entremise de la recherche sur les réseaux neuronaux artificiels, ont mené à l'intelligence artificielle dont il souhaite nous protéger? Est-ce que vous nous dites « je n'aurais peut-être pas dû »? Je ne dirais pas des choses comme ça, parce que je pense que si je n'avais pas contribué à ces recherches, d'autres gens l'auraient fait. Par contre, mon regret, c'est de ne pas avoir vu ça venir plus tôt, parce que j'avais les moyens de le voir venir. J'ai lu des articles, j'ai parlé avec des gens qui s'inquiétaient de ça il y a 10 ou 15 ans. C'était vraiment de la science-fiction à l'époque? Mais c'était des gens sérieux, dont un de mes étudiants. Je pense que j'étais biaisé, dans le sens où, comme tout le monde, on veut se sentir bien par rapport à notre travail. Donc, on regarde ailleurs quand il y a quelque chose qui est un peu dérangeant. Et aujourd'hui, là, je me suis réveillé. En entrevue, Joshua Benjo est le contraire du scientifique arrogant qui nous assène des certitudes comme un boxeur fait pleuvoir les coups dans le ring. Ainsi, lorsqu'on lui demande quel livre sur l'intelligence artificielle il souhaiterait recommander, de façon très humaine, il hésite. Il évoque d'abord un essai d'Eliezer Yudkowsky, j'appelle prénom E-L-I-E-Z-E-R et Yudkowsky. Y-U-D-K-O-W-S-K-Y, et Nate Soares, qui a fait grand bruit lors de sa publication en septembre dernier. If anyone builds it, everyone dies. En français, si quelqu'un la construit, tout le monde meurt. Ils y soutiennent qu'une éventuelle super-intelligence artificielle détruira l'humanité. Puis, Joshua Benjo se ravise. Il suggère plutôt « Le temps des prédateurs » de Giuliano da Ampoli, un livre dans lequel cet écrivain et conseiller politique italo-suisse sonne l'alarme et dénonce les ambitions des géants du numérique. Mais il vient d'entrouvrir une porte que je lui demande de franchir. Pense-t-il qu'Eliezer Yudkowsky et Nate Soares ont raison? Si on parvient à atteindre la super-intelligence, c'est-à-dire à rendre l'intelligence artificielle aussi, sinon plus intelligente que les humains, sommes-nous condamnés? Citation. Ils affirment de manière très certaine quelque chose qui est quand même très incertain, réplique-t-il. Je ne sais pas quelle est la probabilité de ce scénario-là. ils pensent que c'est sûr à 99 %. Moi, je dis, je ne sais pas. Ça pourrait être 1 % ou ça pourrait être 10 %. Mais l'ampleur de la catastrophe serait telle qu'on ne peut pas l'ignorer. Fin de citation. Il y a tout de même des experts qui estiment que la superintelligence est hors d'atteinte et que l'humanité peut dormir sur ses deux oreilles. Citation. On l'espère. Il y a plein de scénarios possibles, dont des scénarios où les avancées technologiques frappent un mur. Reconnaît Yoshua Benjo. Fin de citation. Autre citation. Mais si on regarde les données d'aujourd'hui, on est dans une belle courbe exponentielle vers des systèmes de plus en plus intelligents, de plus en plus capables de planifier, de raisonner. Fin de citation. Autre citation. Il se peut aussi que quelqu'un, et j'espère y contribuer, trouvera des solutions techniques. On ne peut pas compter là-dessus, mais il faut investir pour maximiser nos chances qu'on gère tout ça, autant sur le plan technologique que politique. Fin de citation. Le chercheur admet que l'on constate un recul en matière d'encadrement de l'IA aux États-Unis, comme en Europe, depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Sitôt élu, le président américain a laissé tomber les efforts de l'administration Biden visant à réglementer l'intelligence artificielle. Il tente maintenant d'empêcher les États américains de légiférer à ce sujet. Mais Yoshua Benjo n'en démord pas. L'aspect politique de l'équation est fondamental. Et l'enjeu est international. Le multilatéralisme, dont Donald Trump n'est pas friand, est par conséquent incontournable. Citation. Une intelligence artificielle pourrait être développée dans un pays, ensuite des terroristes dans un autre y ont accès et la modifient pour pouvoir l'utiliser pour fabriquer un virus pandémique qui va affecter un troisième pays. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut gérer juste avec des réglementations nationales, lance-t-il. Alors que les géants technologiques aux États-Unis et en Chine sont entraînés dans une course folle pour améliorer la performance des systèmes d'intelligence artificielle, les cris et les SOS de Yoshua Benjo peuvent sembler naïfs. N'empêche qu'il serait tout sauf bête si on se soucie du sort de notre civilisation et de l'état de santé des démocraties libérales de privilégier la prudence plutôt que la fuite en avant. Et c'est ainsi que Alexandre Sirois termine ce compte-rendu d'entrevue avec le chercheur en intelligence artificielle Yoshua Benjo, texte qu'il a titré « Si on la construit, est-ce que tout le monde meurt ?» publié dans la presse du 21 décembre 2025.